Donc, ce matin, je vais faire mon possible pour vous donner un résumé du voyage du Pérou. Vous savez que si je rentrais dans tous les détails, on risque de passer la semaine ici, parce que j'ai quand même été 5 jours là-bas, et ça a été très intense. Alors, on va sauter beaucoup de détails, puis on va y aller plus dans le... Oui, les enfants, on vient d'en parler, les enfants, comme ça, sont une grande bénédiction, doivent aller, oui, avec... nos jeunes, avec ceux qui doivent les entretenir ce matin. Alors, on remercie Dieu pour l'école du dimanche, pour ceux qui s'occupent et pour les enfants. Amen! Oui! C'est ça. C'est parce que je voulais qu'il y ait plus de monde. C'est pour ça que je n'étais pas pressée de les envoyer. Thank you. Le Seigneur est bon. Il dit à moins qu'on devienne comme des petits-enfants. Hein? Ils ne sont pas gênés, eux. Ils sont spontanés. Ils sont devant le Seigneur, puis on leur montre à lever les mains, on leur montre à faire des choses. Il n'y a pas de gêne, là. Un enfant est tellement spontané, puis le Seigneur veut qu'on soit comme ça, qu'on devienne comme les petits-enfants. Alors, pour en revenir à ce fameux voyage du Pérou, je dis au Seigneur, bien, où est-ce que je commence? Et je pense que le début, c'est premièrement de vous remercier. Vous remercier pour le soutien financier qui m'a permis d'aller au Pérou. Vous remercier pour vos prières aussi, surtout, parce que je me suis rendu compte qu'une fois rendu là, c'est comme plus le temps de prier, on n'a pas le temps. Si on n'a pas prié avant, si moi je ne m'ai pas préparé avant, puis sachant que j'ai des frères et des sœurs derrière moi, derrière l'équipe qui prie pour nous, il est comme trop tard. Parce qu'on est là, nous, on est vraiment dans le feu de l'action. Et puis, c'est pas comme un contexte d'église, il y a l'imprévisible. À tout moment, il y a des choses, il y a des plans qui vont changer. Bon, on se propose d'aller à tel endroit. À cause de telle et telle circonstance, c'est changé. On va dans une autre école et ainsi de suite. On va dans un quartier de la ville. Pour une autre raison, oups, on embarque dans un taxi. Tous les plans sont changés. Alors, faut être très flexible. Et puis, faut être vraiment, là, sur le moment, faire les choses qu'on nous demande de faire. Et on était une équipe de 25, comme l'an passé, quand on est allé en Argentine. Et je peux dire qu'il y avait tellement cet esprit de famille, cet esprit d'unité qui régnait entre nous. Parce que vous savez que c'est dans des moments comme ça où l'ennemi aime à profiter peut-être d'un peu de fatigue. Il y en a, c'est de l'ennui de leur famille. Il y en a que c'est la première fois pour eux faire un voyage missionnaire. Alors, ils sont pas nécessairement entraînés, ils sont pas habitués. Et puis, l'ennemi peut profiter de ces circonstances-là pour apporter la division, pour apporter... surtout rendu à la deuxième, troisième journée quand on est fatigué, puis des fois qu'on ne voit pas finalement tout à fait le résultat qu'on aurait attendu. Donc, il peut y avoir du découragement, mais je peux dire qu'il régnait un très bel esprit d'équipe. On se respectait vraiment, on se prêtait main forte. S'il y a quelqu'un qui avait oublié sa crème solaire parce qu'il faisait très, très chaud, mais on a eu quand même de la belle température, il n'y a pas eu de pluie de la semaine. Puis ça, c'est une réponse aux prières, parce que c'est pas évident d'aller faire du ministère en public quand tu t'es toujours mouillé, t'es toujours... Donc, les journées étaient très chaudes, ensoleillées, mais une belle température qui est sec. Alors, ça se tolère bien, une chaleur sec. On connaît pas ça ici au Québec, là. En revenant à Dorval, je m'ai rendu compte, hein, comment c'est humide, comment est-ce qu'on peut être accablé ici par l'humidité. Et là-bas, les soirées sont très fraîches. Même qu'il faut porter un petit manteau, un petit veston, quelque chose le soir. C'est très venteux parce que, bon, c'est dans les montagnes des Andes, alors c'est très, très venteux. Mais point de vue température, c'était merveilleux. Point de vue ministère aussi, comme je dis, il y avait un bel esprit d'équipe, il y avait vraiment de l'unité entre nous, et puis c'était très bien. Je peux pas vous ramener des statistiques comme telles ce matin, parce que là, bon, j'ai pas reçu tout, je vais recevoir au cours des semaines un rapport plus détaillé, avec exactement le nombre de conversions, les guérisons. Mais on n'est pas là pour regarder au nombre, parce que le Seigneur dit qu'une seule âme qui se repent devant lui, une seule personne qui va l'accepter, il y a une fête incomparable au ciel. Alors, on regarde pas tellement des nombres comme on regarde à des individus. Et puis, le Seigneur a touché beaucoup de personnes là-bas. Il a touché des corps aussi. C'est merveilleux. Moi, je suis toujours dans l'étonnement de voir quelqu'un qui est guéri. Parce que c'est merveilleux, quelqu'un qui accepte le Seigneur et tout ça, mais on le voit pas. C'est un changement qui prend place dans le cœur de la personne. Donc, forcément qu'on voit pas nécessairement. Des fois, on va le voir par le regard, va s'illuminer, va s'éclairer. On voit la continence d'un visage, va changer tout à fait. Mais parfois, il n'y a rien de visible. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et la personne. Et c'est tellement discret. Mais quand tu vois un corps qui est guéri, là, les larmes qui coulent dans les visages, qui sont tellement émues de voir, parce que c'est les gens au Pérou, je les ai trouvés formidables. C'est vraiment un peuple tellement, tellement affectueux. Sont tellement, tu passes sur la rue, là, puis les gens nous arrêtent pour nous prendre la main. Il y avait des belles petites madames, des petites madames âgées, là. Ça, là, c'était le trésor de mon cœur et de mes yeux. Juste les voir, là, c'est typique. Vous savez, comme on va regarder dans un livre, National Geographic, des gens de livres comme ça qui vont nous donner l'historique d'un endroit, quelque chose que tu ne vois pas autre que dans ces livres-là, mais là, ils sont là, sous tes yeux, habillés typiquement avec leur chapeau de feutre rond, là, puis les madames avec la grosse robe, là, la grosse jupe, on dirait qu'il y a une grosse crinoline en dessous de ça. Ils ont tellement d'épaisseur de linge, je me demande comment est-ce qu'ils font pour avoir si chaud. Ils ont des bas, les bas, après ça, ils ont un pantalon, puis ils ont la jupe par-dessus, puis ils ont une blouse, puis là, ils ont une veste, puis un châle par-dessus, tout ça. En tout cas, ils sont protégés du soleil, je vous l'assure. Je regardais ça, je me dis, bon sang. Mais je pense que c'est leur façon à eux de se protéger de la chaleur. En tout cas, ils sont vraiment, puis ils sont typiques, là. Ils sont ridés, là. Tu prends un sac de papier brun, puis tu chiffonnes, puis c'est ça qu'ils ont l'air. Mais ils sont belles, à voir, parce que, tu vois, leur cœur, là, sont assis sur le rebord des chemins, il y a à peine de trottoirs, peut-être des petites choses très, très étroites. Ils sont assis là, là, puis ils passent, là, puis ils font un sourire, là, ils ont peut-être 4-5 dents dans toute la bouche, là, puis ils tendent la main, ils se donnent la main. Oh, moi, j'arrêtais ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, c'est ma bénédiction. Des voix sont accueillants. Un peuple vraiment amical. Des fois qu'on peut donc avoir des préjugés sur d'autres peuples. D'arriver et de dire, ben là, je ne sais pas comment ces gens-là sont, pis ça, tout ça. Ils sont fins, ils sont ouverts, c'est des gens tellement ouverts. C'est pour ça que ce n'était pas difficile d'apporter l'Évangile. On apporte l'Évangile, puis tu vois, là, le cœur, c'est comme des enfants. Ils sont réceptifs. Mais il faut dire que c'est des peuples aussi, là-bas, en Amérique du Sud. Ils ont tellement peu d'espoir. Ils ont tellement de vie difficile. Ils font avec presque rien. Quand tu penses qu'on passait le long des maisons, c'est assez. Il faut le savoir qu'il y a des gens qui habitent là parce que tu vas passer, puis c'est comme inaperçu là, de penser que c'est habité par des gens, des tels, on n'ose même pas dire le mot, c'est pire qu'il y a des cambés, je veux dire, c'est pas habitable là-dedans. Puis eux, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas rien de ça. Puis ils se débrouillent là, ils arrivent à prendre soin de leur famille. Donc, c'est des gens qui, avec très peu, ils vont faire beaucoup. Des gens travaillant aussi, je voyais des petits garçons là, ça avait à peu près 10 ans. Et puis avec une petite boîte de bois sur le dos pour faire les souliers, polir les souliers des gens pour avoir juste un sol qui est quelques sous, là. Travaillant, ils se dépêchent d'un endroit à l'autre, ils sont polis, ils nous demandent est-ce que je peux faire tes souliers, puis moi j'ai fait faire les miens parce que là, le petit bonhomme, il insistait, c'est comme, écoute là, je veux faire tes souliers. Alors il a poli mes souliers, puis là j'ai donné $1 américain, c'est comme, mes yeux viennent grands comme ça, là. Pour lui, c'est une journée de paye. J'avais le goût de le bénir comme il faut. Ils sont contents. Donc, on voit, c'est des gens travaillants. On passait dans les petits villages, les hommes avec des aiguines, là, puis ils travaillaient au gros soleil, avec pas de machinerie, presque rien. Et puis, ils s'arrangent vraiment avec les moyens qu'ils ont. Je peux pas dire que je les ai sentis malheureux, parce que, bon, c'est leur style de vie qui est comme ça. Sont habitués. Nous, on arrive là, ça fait comme un choc culturel, c'est certain, parce qu'on est habitué de voir tellement, puis on a tellement à toi à l'apporter ici. Mais je ne les sentais pas malheureux, jusqu'à ce qu'on leur apporte de l'espoir que Dieu peut changer les choses. Là, c'est là que tu vois qu'ils sont humains comme d'autres. Ils cherchent pour quelque chose, ils cherchent pour justement cet espoir-là qu'ils n'ont pas entendu parler. La plupart d'eux sont romains catholiques, je dirais, au 90, sinon 95% de la population, sauf dans les montagnes. Les montagnais, eux, ont un autre dialecte. Donc, dans les villes, les villages, c'est l'espagnol qui est la langue primordiale. Dans les montagnes, il y a un autre dialecte et là, il y a d'autres dieux. J'ai vu des hôtels où ils font des holocaustes encore, ils vont sacrifier des animaux. Et puis ces montagnais-là, disons qu'eux autres, une de leurs coutumes puis une de leurs croyances, c'est que, bon, ils vont immoler un chien, ils vont prendre un animal quelconque, et puis ils vont l'immoler, puis ils vont manger le cœur cru comme ça. Et puis s'ils ont de la maladie, ça va chasser la maladie. Donc, ils implorent plein de dieux, plein de choses comme ça. Alors, les gens sont un peu affolés, ceux qui sont dans les villages, les petites villes environnantes, sont un petit peu effrayés, puis un peu affolés de ces gens-là de montagne, parce qu'il y a énormément de sorcellerie. Puis il y a des gens qui venaient aux réunions puis ont dit, mais c'est impossible pour moi d'être guéri. Ça ne peut pas changer pour moi parce que j'ai reçu un sort d'un sorcier. Je suis allée voir un sorcier, puis il me donne un sort. Alors, on ne peut pas briser ça. Il faut leur faire comprendre que le sang de Jésus est capable de briser des pactes, est capable de briser. Donc là, ils retrouvent de l'espoir que même si un sorcier qui m'a prononcé un sort, le sang de Jésus va me nettoyer de ça, va briser ce sort-là. Tu vois briller l'espoir dans leurs yeux parce qu'ils sont captifs de ces sorciers-là, sont très puissants, sont dominateurs dans les montagnes. Et puis les gens, quand ils ont un problème, quand ils ont quelque chose, ils vont consulter. Ils sont portés à les consulter, ils vont voir. Alors, ils reçoivent des sorts, ils reçoivent des mauvais esprits. Puis là, on voit qu'ils sont captifs de ça, mais le Seigneur a dit, nous envoie pour libérer les captifs. Alors, j'ai vu des gens comme ça libérés vraiment dans leurs pensées, dans leurs émotions. Toute leur physionomie a changé. On a eu l'occasion de faire du ministère de rue. Ça, je vous en avais parlé. Et puis, je pensais à Annie en particulier, Annie Berthelot, quand je faisais ça, parce que Il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants cette année. Je dirais plus d'enfants cette année même que d'adultes qui ont répondu à l'appel du salut. On a vu les corps guéris. Puis je me souviens que ma sœur Annie, parce qu'Annie m'avait mentionné qu'elle ramassait des fonds à un moment donné pour une certaine œuvre que le Seigneur lui avait mis à cœur. Puis un dimanche matin ici, j'avais eu l'occasion de partager un peu la parole. Puis je disais qu'on allait toucher des enfants. Alors Annie, son cœur s'est touché, puis elle a pris ces argents-là qu'elle devait donner à d'autres, puis elle les a semés dans le ministère que j'ai là-bas. Alors, tu peux t'assurer, Annie, vous tous, mais Annie, que le Seigneur a touché les enfants, des petits bonhommes, des petites filles, les mains dans les airs. Il acceptait le Seigneur des guérisons. C'est merveilleux. Puis je pensais à Annie, je me disais, parce qu'elle était obéissante, puis elle a pris ses argents qu'elle avait consacrés à autre chose, puis elle les a envoyés pour le Pérou. J'ai été capable de voir ça, puis ramener un bon rapport. Dieu est fidèle, puis est à l'œuvre, puis aime les enfants. Le Seigneur aime les adultes, mais il est concerné par les tout-petits aussi. Il rencontrait les besoins de ces petits-là. Et puis, on faisait tout comme annoncer l'Évangile aux enfants. C'est sûr que c'est avec un peu des jeux, parce qu'il faut imaginer pour eux. Tu peux pas arriver puis leur dire, ben là, le Seigneur, puis ça accroît, puis tout. Eux autres, ils peuvent pas enregistrer, là, un enfant de 3, 4, 5 ans. Donc, c'est par jeu, c'est par image. Puis là, on avait des jeux de cartes, puis là, on leur sortait, on prenait un enfant de la foule, puis là, on lui faisait sortir la carte du milieu qui est Jésus, le roi de cœur. Puis on leur demandait, c'est qui est sur l'image? Puis les enfants disaient Jésus en espagnol, ils savaient. Puis là, on raconte l'histoire de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Parce que vous aimeriez que Jésus soit le roi de votre cœur. Les enfants, oui, les mains dans les airs, spontanés, puis ils recevaient le Seigneur. On priait pour eux. Est-ce qu'il y en a qui a un bobo? Vous avez mal au ventre, vous avez un bobo en quelque part. Mais tu sais, enfin, il y avait la main qui se pognait là. On priait pour eux, puis c'est comme après, là, il y en a plus. C'est qui l'a enlevé? Qui t'a guéri? C'est Jésus! Ils sont tellement beaux! Alors, le Seigneur est bon. Alors, il y a eu ça qui s'est fait dans les rues. On a eu l'occasion aussi d'aller vraiment, c'est ça que j'ai aimé. On est allé dans une ville majeure du Pérou, qui est la ville de Huánuco. Ça, c'est tout entouré de montagnes. Partout où on regarde, ce n'est que des montagnes, parce que c'est au pied des Andes. C'est merveilleux à voir. C'est tellement beau. Puis, on peut voir à perte de vue, puis on voit qu'il y a de la forêt, on voit qu'il y a des petites maisons habitées à des endroits. Comme j'ai dit, j'ai vu des hôtels où ils vont faire des holocaustes. Mais entre ça, il y a les petits villages, puis c'est ça qui m'intéressait, parce que l'équipe et le ministère dans lequel j'ai fait part, John Smithwick Ministries, lui, son cœur, c'est d'aller dans les endroits isolés, où est-ce qu'il n'y a pas personne qui veut aller. Donc, ces gens-là n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas... Donc, c'est des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais entendu le message de l'Évangile. Quoiqu'ils sont catholiques, ils sont pratiquants de leur religion, mais n'ont pas entendu l'idée et le concept de confesser le Seigneur pour eux. Vous savez, la religion catholique, bon, on est baptisé, bébé, puis ça, ça nous sauve. Alors, ils ont grandi avec ce concept-là, qu'ils sont sauvés, puis là, tout le reste, c'est comme un peu nébuleux. Mais quand tu leur apportes vraiment le plan du salut tel qu'il est, et puis il faut préciser hein, que Jésus est né de la Vierge Marie, puis ils sont là, puis ils ont assez de connaissances quand même, à cause de leur arrière-plan catholique, de savoir les points principaux de l'Évangile. Ils ne savent pas que ça a la puissance de sauver, mais ils croient que Jésus est né de la Vierge Marie. Ils croient qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, puis il a versé son sang innocent. Ils vont croire que Jésus est ressuscité le troisième jour, mais c'est tout. Donc, c'est comme un salut universel, mais ils ne comprennent pas que ça peut être pratique pour eux, puis c'est quelque chose de personnel pour eux, donc lequel ils doivent s'acquérir. Dès qu'ils comprennent le principe, là, c'est incroyable, là, la réception des gens, vraiment. Alors, dans les petits villages, on a eu l'occasion d'aller dans le marché public. Ça, j'ai trouvé ça vraiment épatant, d'arriver vraiment là sur les endroits de marché, là, où est-ce qu'ils sont après vendre leurs fruits, leurs légumes et toutes leurs récoltes, et ainsi de suite. Des petits poulets dans les petites cages, puis on dirait qu'ils n'ont quasiment pas de plumes. Ils ont l'air d'avoir 5-6 plumes, là, puis on dirait qu'ils sont cernés jusque-là. J'ai mangé du poulet, mais j'osais pas penser. Bon, ils venaient de ces petites cages-là. Tu sais, des fois, tu te fais aller l'imagination, parce que la bouffe est différente, c'est beaucoup différent. Puis là, je me disais, bon, c'est quoi qui a mangé le poulet? Puis bon, après ça, je me disais, non. Peu importe qu'est-ce qu'il a mangé, Seigneur, ta parole dit que tout est sanctifié par la prière. On mange le poulet, puis on se casse pas la tête. Mais tu sais, l'imagination, elle peut partir au point que là, tu veux pas manger ce repas-là, puis là, tu veux pas souper, puis le lendemain, tu veux pas déjeuner. À un moment donné, il faut se saisir, il faut se raisonner, parce que bon, on a besoin de notre énergie, on a besoin de nos forces physiques. Alors, il nous apporte du steak, il nous dit c'est du bœuf, correct, c'est du bœuf, tu questionnes pas. C'est d'autres choses qui ressemblent à du bœuf, puis ils l'ont fait cuire, puis c'est brun comme un morceau. C'est du bœuf, correct. Fait que là, tu sais, faut se faire une idée, vraiment, là. Des fois, je me fermais les yeux, puis je disais, Seigneur, aide-moi. Surtout les soupes, il y avait une sorte de potage, là, des œufs là-dedans, des affaires. En tout cas, c'était pas mauvais au goût, mais c'est l'apparence qui était plus ou moins belle. Mais j'ai dit, non, Seigneur, c'est correct, puis on a... Donc, j'ai mangé moins que j'aurais mangé chez nous, c'est sûr. Mon soir, j'étais fière de moi pareil, parce que dans le passé, j'aurais même pas touché, hein, j'étais... genre dédaigneuse, mais le Seigneur nous prend ce spot, puis il sait exactement nos faiblesses. Là, c'est comme, OK, tu vas-tu manger ou tu mangeras pas? Puis on veut pas être offusqué, le peuple, non plus. C'est leur coutume, c'est leur nourriture. Eux autres sont contents, ils mettent plein d'assaisonnement là-dedans, des sauces piquantes, là, ça n'a pas d'allure, puis là, ils versent ça sur les frites, mais la moutarde mêlée là-dedans, puis la sauce jalapeno très fort, là, puis ils mettent ça sur leurs frites, c'est comme, ah! En tout cas, ils aiment ça, eux autres, comme ça. Moi, des fois, je disais, non, non, merci, je veux pas, bon, on y allait, tu sais. Mais quand même, en général, je peux dire quand même qu'on a bien mangé, c'est différent, c'est épicé différemment, c'est sûr que le goût est différent, c'est apprêté d'une autre façon, mais c'est ça qui est la culture, c'est ça qui est la richesse d'aller dans d'autres cultures, voir comment ils mangent et tout ça. Mais c'était merveilleux de voir dans le marché public, voir les gens, comment ils étaient réceptifs. Dès qu'on commençait à faire, parce que comme je vous ai dit, ça se fait tout par comme des petites pièces, à la fois musicales, c'est sur une certaine musique qui est espagnole, donc eux comprennent les paroles sur la terre et ainsi de suite, puis là il est crucifié, puis là il meurt, puis là il ressuscite, puis tout le plan du salut, puis après ça on explique aux gens qu'est-ce que ça veut dire, puis là tu mets la couronne d'épines sur la tête, puis là il est battu avec un fouet, puis là les mains, puis les pieds, les gens regardent ça, puis un yeux grand, c'est comme... Là, après, on leur explique qu'est-ce que ça fait pour nous. Les gens sont réceptifs, même au point qu'ils laissaient leurs produits là. Ils en oubliaient de vendre les choses. Ils veulent la soif de connaître Dieu, de connaître les choses du Seigneur, puis d'avoir de l'espoir que les choses peuvent changer pour eux. Des gens très, très ouverts. Parce que, comme j'ai dit aussi au début, bon, ce sont des gens qui n'ont pas d'espoir, mais aussi des gens qui n'ont pas grand-chose. Nous aussi, il y a des ciné-parcs, il y a des cinémas, il y a plein de choses. On peut se distraire 24 heures par jour ici. Tandis que là-bas, c'est non seulement une occasion pour eux d'entendre l'Évangile, mais c'est une occasion de rassemblement social aussi. Donc, le village, ils vont se donner le mot, ils vont se passer le mot, ils vont se rendre à tel endroit, telle heure, puis là, c'est un rassemblement public et social. Donc, ils échangent, ils sont contents, il y a du monde, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, ils sont curieux de voir des gens d'un autre pays aussi. Et la façon qu'on va présenter ça. Donc, tout le monde, tout le village vont s'attrouper là. On n'a pas de difficulté à voir les gens à venir du tout. Donc, il y a eu les villages comme ça. On a eu l'occasion aussi d'aller dans quelques écoles. Pas autant que l'année passée. L'année passée, en Argentine, on a eu plus accès aux écoles. Cette année, c'était très limité. Mais ce qu'on a pu faire dans les écoles était quand même merveilleux. On est allé dans une école primaire, je dirais, d'à peu près, bon, là, c'est à peu près 5-6 ans jusqu'à, bon, 12-13 ans. Ça a été tellement bien ce qu'on a fait que même le directeur il filmait ça pour envoyer ça à la télévision locale. Là. Il voulait passer ça à la télévision. Les enfants étaient réceptifs, mais vous savez l'ennemi comment ce qu'il est. Hein? Tout de suite, c'est servi du directeur, puis ils nous ont mis en dehors de l'école. On a pu faire une seule présentation, puis là, c'est comme la porte est là, puis allez-vous-en. Mais c'est pas grave. Ceux qui ont entendu, ceux qui ont reçu, ils peuvent pas nous enlever ça. Ils ont reçu la vie éternelle. Ça. Mais c'est pour dire comment qu'il y avait une bonne réception dans les écoles. J'ai eu l'occasion aussi cette année, ça j'ai trouvé ça extraordinaire. On est allé dans une prison. L'année passée, c'était plus du ministère général, de rue, d'école et la croisade du soir. Mais là, ils ont fait une sélection de gens qui pouvaient aller dans la prison. Et puis, j'ai été sélectionnée parmi ceux qui avaient accès d'aller. Alors, j'étais tellement contente. C'est une prison de 1500. Et il y a un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Mais on n'a pas pu visiter tous les blocs. C'était pas possible de voir tous les blocs. Mais on a eu accès à un bloc en particulier de femmes. Je dirais, il y a à peu près 45 à 50 femmes qui étaient là. Des femmes tellement fines. C'est pas possible. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font en prison? Ça fait de bon sens, là. Ça, ils ont le cœur sans main. Tu vois pas de malice en eux, là. C'est fin, là. C'est pas possible. Que je me disais, qu'est-ce qu'ils font en prison? Parce qu'on s'imagine en prison, bon, là, c'est avec des révoltés. Puis, bon, du monde qui ne veulent rien savoir, puis ils sont comme contents même d'avoir fini pour quelques-uns. Ils n'ont pas de. Mais là, ces gens-là, fin, puis une douceur, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient là. Et puis, on avait chacune à peu près, dépendant du groupe qu'on était avec, 15 à 20 minutes pour faire du ministère. Puis là, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'apporte à ces femmes-là? Je ne connais pas ça en réalité d'être derrière les barreaux. Je ne connais pas ça de ne pas vivre sans ma liberté. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Je ne peux pas leur faire à quoi que je les comprends, là. Ça se peut pas, parce que je ne suis pas dans leur monde. Je n'ai pas leur vécu. C'est pas moi qui est renfermée dans une cellule. Alors, qu'est-ce que je leur apporte, Seigneur? Parce qu'il faut qu'on leur apporte de l'espoir. Ces gens-là sont assoiffés, sont affamés d'espoir. Ils disent que leurs circonstances sont. Et puis, le fait qu'ils sont en garderie de jour, où les enfants de 0 à 3 ans, ils peuvent être avec leur maman des certaines périodes de la journée. Parce que bon, il y a encore là-dedans des mères qui allaitent et il y a des petits bébés naissants jusqu'à 3 ans. Alors, il y a une certaine partie de la journée qui peuvent être avec leurs enfants. Mais c'était tellement bon, on a vu les enfants aussi. Mais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'apporte à ces femmes-là? Puis le Seigneur a mis spontanément sur mon cœur un message. Vous savez, le Seigneur, comme il dit dans sa parole, de se préoccuper qu'est-ce qu'on va dire d'avance, qu'il va nous donner les mots. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, le Seigneur mettait sur mon cœur de leur apporter un message que même si eux autres ne sont pas libres physiquement, ils peuvent être libres dans leur cœur. D'accepter le Seigneur, ça va changer leurs circonstances, ça va changer leur... Alors, je leur faisais comprendre qu'il y a beaucoup de monde libre physiquement, mais sont liés. Ils sont enchaînés parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, le Seigneur, le message tournait autour de ça. La liberté intérieure, la liberté du cœur que personne ne peut ôter, que personne ne peut enlever. Alors, c'est certain que, bon, là, les femmes pleuraient, il y avait des larmes. Des femmes d'un certain âge, quand même. Tu sais, je veux dire, de trentaine à, bon, dans cinquantaine aussi, même un petit peu avancé, plus que ça pour quelques-unes. Alors, faut être vraiment sensible à ce qu'ils vivent. Tu ne peux pas juste arriver là et dire, ah oui, je vous comprends. Non, on ne les comprend pas, on n'est pas là, on n'a pas leur vécu. J'ai appris par après que ce sont des femmes qui, pour la plupart, leur crime, c'est d'avoir échangé de la drogue, vendu de la drogue pour faire manger leurs enfants. Alors, parce qu'il y a tellement de gens là-bas qui mendient, c'est partout, tu vois ça, des mendiants. Alors, ces femmes-là, ils ont un cœur comme nous, ils les aiment. Là. Ils voulaient pas, mais quand tu vois ton enfant crever de faim, ils prennent, pas que je veux justifier, mais ils vont prendre les moyens qu'ils ont pour essayer de faire manger leurs enfants. Puis tu vois, c'est des gens, là, ils ont le cœur sur la main, mais c'est passible là-bas de prison. Puis il paraît que les hommes, non, ça, j'ai appris ça, que si les hommes vont trafiquer de la drogue, eux autres ne seront pas emprisonnés pour les mêmes raisons que les femmes. Donc, on voit que tout de suite, un dénigrement social par rapport aux les hommes et les femmes. La femme va être punie et l'homme, non. Alors, un jour, va tout ça, un monde de justice. Alors, ces femmes-là, c'est des femmes qui souffrent. Alors, on a pu en conduire plusieurs au Seigneur avec la liberté que j'ai pu leur donner, d'autres qui ont fait du ministère aussi. Il n'y avait pas que moi, là, on était 7-8 femmes qui avaient accès à ce bloc-là. Donc, chacune à tour de rôle, on apportait ce que le Seigneur mettait sur notre cœur, mais il y avait un flot constant de l'esprit. Une disait quelque chose, puis l'autre enchaînait avec le flot. Il y avait vraiment un beau flot entre nous de ministère. Alors, des femmes qui ont été vraiment libérées, ont compris que même s'ils sont derrière des barreaux, physiquement, ils ne sont pas libres, mais sont libres dans leur cœur. Puis on voyait la joie dans leurs yeux, l'espoir qui renaissait pour eux. Puis il y en a une dame en particulier, je la sentais comme On avait prié pour elle, mais elle n'était pas encore tout à fait délivrée. Je voyais encore de l'oppression dans ses yeux. Puis comme on devait partir quand même, parce qu'on est une certaine heure qu'on doit être avec eux, parce que c'est tout coordonné d'avance avec les directeurs des prisons et tout. Alors, on arrive à une heure précise, puis on doit quitter à une heure précise aussi. Mais je voyais que cette dame-là, elle avait encore de la souffrance. Alors, j'ai mentionné, juste, je peux avoir juste une minute encore avec elle. Alors, je suis allée la voir, puis je la prends par la main. Elle s'appelle Maria. Et puis, je lui demande, j'ai dit, je trouve que tu as encore de la tristesse dans ton visage. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui ne va pas? Puis, tu aimerais en parler. Elle me regarde sérieusement, puis elle dit, parce qu'elle venait d'accepter le Seigneur, mais elle était concernée pour sa famille. Elle me dit, est-ce que tu crois que Dieu est assez puissant pour entendre mes prières concernant mon mari puis mes deux fils? Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles d'eux, puis je sais qu'ils sont dans la drogue. Elle était concernée, pas pour elle, là, c'est elle qui était en arrière des barreaux. C'est elle qui était prisonnière, mais était concernée pour sa famille. C'est des gens comme ça, sont pas... Leurs enfants, il y avait des madames là qui veux-tu prier avec moi? Je sais pas, ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas vu mon fils, je sais pas comment est-ce qu'il va. Puis ils sont concernés, ils restent avec un cœur de maman. Ils sont en arrière des barreaux, mais leur cœur est pour leur mari, leurs enfants. Alors j'ai prié avec elle, puis je m'ai mis d'accord avec elle qu'elle va avoir des nouvelles de son mari puis ses enfants, puis le Seigneur va les toucher. C'est assez puissant de nous emmener de l'Amérique du Nord jusqu'au Pérou pour aller la visiter, elle, dans une cellule. C'est le même Seigneur, il va toucher son mari, peu importe où il est, et ses fils. Alors, elle avait tellement d'espoir, elle avait des larmes de joie, de mêlée, d'émotion, d'espoir, que le Seigneur va toucher ses enfants. Et on a eu aussi accès à l'hôpital. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Encore, il y avait une sélection de gens qui se faisaient parce qu'on ne pouvait pas tous y aller. 25, tu ne peux pas arriver là, t'attrouper dans un hôpital, c'est quand même bon. Parce qu'il y a les infirmières, il y a les médecins. Ils n'ont pas tous les moyens que nous avons ici. C'est pas moderne, là, c'est le tiers-monde. Donc, il ne fallait pas être plus que 6 qui pouvaient aller à l'hôpital. 6 hommes et 6 femmes de l'équipe. J'ai été sélectionnée parmi ceux-là. Je voyais toujours la faveur du Seigneur là-dedans parce que je disais, Seigneur, oh, merveilleux, c'est le fun que tu m'ouvres des portes particulières comme ça, quand d'autres occasions, j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire du ministère comme ça. Alors, on est allé à l'hôpital, on s'est tout simplement fait aviser par John Smith Wake, par les dirigeants de la mission, de ne pas imposer les mains aux malades, par précaution aussi personnelle, au cas où que, bon, il y a des gens qui ont des plaies qui coulent, le sang qui peut être contaminé, des choses comme ça. De ne pas leur toucher, mais qu'on peut prier quand même à une certaine distance d'eux en mettant notre main, en tirant notre main vers eux, puis le Seigneur va quand même toucher leur corps. Alors, on respectait les consignes vraiment sans leur toucher. Et puis, on a vu des petits-enfants, là, il y avait des pneumonies, là, les mamans étaient avec eux, les prenaient dans leurs bras, tapent le petit dos, puis ils veulent les réconforter, ils ne savent plus quoi faire pour leur apporter du bien, comme on est, nous, ici. Puis, il y avait des madames qui apportaient leurs petits tricots, puis là, pendant que le bébé dort, bien, elle a sa petite balle de laine, puis elle tricote, il y en a d'autres qui faisaient du crochet, mais ils sont toujours auprès de leur bébé, auprès de leurs enfants, des vrais cœurs maternels, là, pour prendre soin de leurs enfants. Il y avait un jeune homme en particulier que lui, il était dans un traumatisme. Il était dans une chambre à part. Il y avait eu un accident d'automobile. Il avait été renversé par une auto. Puis il était dans un choc, il était dans un traumatisme où il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas rien faire. Il avait mis comme des mitaines sur ses mains pour qu'il se graffine, je trouvais, parce que quand il était peut-être en état de choc où il revivait la scène, il devait être désespéré. Alors, il y avait des mitaines. Dès qu'on s'est approché de lui, puis on a commencé à prier, on a tendu notre main vers lui, on a vraiment senti que le Seigneur le touchait. Il bougeait dans son lit, là, puis il avait les yeux grands, puis il avait un sourire, là. C'est comme il savait que Dieu s'approchait de lui pour lui faire du bien. Puis on priait, Seigneur, même si c'est une distance, on ne peut pas le toucher physiquement, mais ta main est là, puis tu le touches présentement. On a vu sur son visage une sérénité là qui était là, qui n'était pas là avant. Il faisait des efforts pour essayer de parler, essayer de communiquer, puis toute sa continence a changé. Ses yeux étaient brillants, là, puis il sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait une présence inhabituelle qui était auprès de lui. On a prié pour lui que le Seigneur le rétablisse complètement. On a remercié les infirmières de leur gentillesse, les médecins de nous avoir laissé accès, de voir comme ça. Fait que c'était des choses de privilège, je vous dirais, ce voyage ici. Parce que c'est pas chaque jour qu'on peut vivre des grandes choses comme ça. Les croisades du soir, c'était extraordinaire aussi. Les gens venaient par foule, là. C'était comme, c'est ça, c'est dans un grand terrain, un vaste terrain, on pourrait dire un terrain de baseball, là, à perte de vue. Mais c'était rempli, là, à perte de vue, puis des deux côtés de l'estrade aussi. Puis j'ai eu l'occasion de faire du ministère, justement, aussi. Chaque soir, il y avait quelqu'un qui était sélectionné de l'équipe. C'est pas toujours les mêmes, parce que, bon, on veut donner opportunité à plusieurs aussi, d'avoir un flow, de goûter à ce que c'est de faire du ministère évangélique en masse, comme ça. Mais j'ai trouvé ça formidable. Puis les gens sont, comme je vous ai dit, sont réceptifs à l'Évangile. Et puis, dès qu'il y a un appel qui se fait après ça pour la prière, je trouve beau de ce ministère-là en particulier, parce que je ne peux que parler de celui-là, parce que c'est celui-là que je connais. Je suis certaine qu'il y a d'autres bons ministères aussi. Mais celui-là, il y a un ministère de suivi aussi. C'est-à-dire que là, il y a toutes les équipes, puis il y a tous les pasteurs locaux de différentes églises qui viennent là prêter main forte à notre équipe. Et puis là, eux autres sont tous, ils ont comme une bande sur le bras, si on veut. Ce sont des placiers. Vraiment la structure d'église locale comme on connaît. C'est des églises dites « faith word », la parole de la foi, des choses comme ça. Alors, ces pasteurs-là viennent prêter main forte, puis nous, on leur prête main forte pour former une équipe. Et puis là, ils forment, John et d'autres, ils vont les former, ces pasteurs-là, pour être capables de prendre la relève, accueillir les nouveaux qui vont rentrer dans l'église, parce que ça ne donne rien d'apporter l'Évangile, puis après ça, laisser les brebis dispersées partout. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait une église locale forte pour les accueillir parce que c'est là qu'ils vont grandir, c'est là qu'ils vont être stabilisés, ils viennent de venir au Seigneur, ils viennent d'avoir une guérison dans leur corps, mais s'ils sont laissés à tout vent de doctrine, à n'importe quoi, ça ne sera pas long, ils vont être retournés, puis des fois pire que ce qu'ils étaient avant à cause de la persécution. Donc, il y a des bonnes églises locales, c'est bien. John travaille de pair avec les églises, avec les pasteurs, pour s'assurer que la moisson, un coup qu'elle est rentrée, ils ont une place à aller, ils ont une bonne bergerie pour aller. Alors, on voyait l'appui des pasteurs, c'était merveilleux. Les pasteurs étaient tellement contents qu'on était là pour leur apporter main forte, qu'ils ont même fait un repas spécial pour nous, un midi, puis avec les tables, hein, puis les nappes, des napkins de couleur. Là, on n'y est pas, là. Je veux dire, ils ont sorti le plus beau, des napkins de couleur qu'il y avait, qu'ils ont réservé pour nous autres. La coutellerie, toute pareille, là. Tu vois qu'ils ont mis leur meilleur, ils ont pris des gros pots de moutarde, ils ont pris des gros pots de marinade vidée, puis ils ont mis des belles fleurs du pays là-dedans, sur les tables, tout le long, des belles fleurs de couleur pour nous accueillir, même une petite coupe de vin, on pensait que c'était pour la communion après, mais c'était pas pour la communion, c'était vraiment pour nous accueillir. Mais après, c'était laissé libre à notre discrétion si on veut prendre le vin ou pas, mais comme John nous avait dit, concernant les circonstances, si on est pour offenser les pasteurs, on le prend, ça vient de finir là. Ça dépend toujours de la circonstance, parce qu'on ne veut pas offenser. L'amour n'offense pas. Alors, si on aurait dû prendre la petite coupe, on le prenait, ça vient de finir là, mais c'était laissé à notre discrétion. Moi, je ne l'ai pas pris parce qu'il avait l'air fort, puis je me disais, bon, on est à jeun un peu, puis ça, fait que là, tu te dis, bien, pas. En tout cas, on n'était pas obligé de le prendre, alors, mais il y en a qui l'ont pris, la plupart n'ont pas touché, mais c'était eux, leur façon. Ils ont tout mis, ils ont tout déployé ce qu'ils avaient, puis ils nous ont préparé un repas typique dont ils nous ont fait peur au début. Ils ont dit, on mange du cochon d'Inde. Et puis là, on était toute là, l'équipe, oh non, c'est du cochon d'Inde pour dîner. Ouh! Puis là, ma fille, elle a un cochon d'Inde dans une petite cage dans la maison. Puis je le regarde, puis il est beau, mais tu sais, je l'aime, mais pas au point que j'aurais voulu le manger. Puis là, je me disais, oh non, tu ne veux pas qu'on va manger du cochon d'Inde, ça n'a pas d'allure. Seigneur, aide-nous, là, cette fois-là. Là, vraiment, on a besoin d'une grâce spéciale. Je ne suis pas sûre que je vais goûter à ça. Là. Mais ils ont juste fait une fois. C'était juste pour nous niaiser, c'était pas ça. Là, les pasteurs riaient, c'est comme parce qu'ils regardaient la tension monter. Tout le monde s'en parlait. Paraît que c'est du cochon d'Inde qu'on mange. Oh non, l'autre a dit. Fait que là, nous autres trouvaient ça drôle parce que pour eux, c'est un mets. Tu veux faire plaisir à quelqu'un là-bas, donne-leur du cochon d'Inde, puis tu viens de te démarquer comme un cordon bleu. Hein. Alors finalement, c'était du porc. Ils font un gros trou dans la terre, puis là, ils mettent de la braise. Puis là, quand ça s'est rendu rouge, ils vont mettre des morceaux de porc dans un chaudron avec des pommes de terre. Puis là, ils descendent le chaudron, puis là, ça cuit toute la journée. Ils ont travaillé, ces pasteurs-là, leurs épouses puis leurs enfants, là, c'est incroyable. Une journée complète dans une grosse chaleur pour nous préparer un repas typique. Alors, c'était du porc très épicé. C'était bon, par exemple, au goût, mais c'est fort. Il avait mis comme une croûte par-dessus ça qui était très, très épicée. Là, ça brûle la langue, puis les lèvres, c'est comme ça pince, là. Je me disais, s'il y a des gens, ça les tue juste par... Tellement c'est fort. Après ça, c'est des gens qui mangent beaucoup de féculents. J'ai trouvé surpris qu'ils n'étaient pas tellement... Parce que c'est des gens qui dépensent beaucoup d'énergie. Parce que là, il y avait deux pommes de terre, à peu près cette grosseur-là, chacune à notre assiette, en plus d'une autre pomme de terre sucrée. T'en as deux ordinaires, t'en as une sucrée. Puis là, après ça, t'as comme un grand yam qui est une autre sorte de pomme de terre, un autre féculent. Alors là, ça fait des patates longtemps, tu sais. Puis là, tu manges 3-4 morceaux de patates pour un morceau de porc parce que tu veux équilibrer. Le morceau de porc, il n'est pas gros, mais tu as gros des patates. Fait que tu ne vas pas finir juste avec les patates. Tu manges 3-4 bouchées de patates puis un morceau de porc. Puis là, en tout cas, pour finir, égal. Puis là, il y avait une belle salade, mais on s'est fait dire peut-être de ne pas la manger parce que, bon, les légumes là-bas, les fruits, si on ne peut pas les peler, c'est mieux de ne pas les manger parce que c'est lavé avec l'eau qui est infecte finalement. Alors, je regardais la salade, puis il avait mis plein de beaux légumes du pays, puis des tomates, puis du concombre, des radis. C'était tellement appétissant qu'on n'avait pas touché aux légumes de la semaine. C'est comme, je regarde, j'ai convoite, mais je ne mangerai pas. Parce qu'ils l'avaient rincé avec du chlore, puis on dit, mais au cas où, des fois, on avait été avisé que si on mange la salade, c'est à nos risques. Il y avait une petite vinaigrette à la lime là-dessus. Ça avait l'air bon, mais je n'ai pas touché, je n'ai pas osé. Mais en revenant à la maison, ça veut dire que je m'ai gavé de légumes, ça m'avait manqué. Vraiment, un accueil à cette église-là, ils ont déployé, ils ont mis leur meilleur, ils ont mis le paquet, tout ce qu'il y avait pour nous accueillir. On voyait, on ne pouvait pas parler la langue, on ne pouvait pas communiquer avec eux à moins d'interprètes, mais tu sens le cœur, c'est le même esprit, le même Seigneur qui nous unit. Tu vois juste dans les yeux la joie de ces gens-là. Ils sont tellement dévoués. Puis là, les pasteurs, eux autres, ils arrivent en disque à gaz. Ben, ça, c'est l'or. C'est l'or. Oui, Daniel, il aurait aimé ça, voir ça. Des gens à Ronda, là, tu sais. Puis là, ils arrivent. Puis là, ça, c'est leur véhicule de déplacement, si vous voulez. Parce que la plupart des gens sont à pied. Après ça, tu as les taxis. Là, tu as ceux qui conduisent des taxis. Mais la plupart des gens, il y en a quelques-uns qui ont une bicyclette. La plupart des gens, là, la majorité sont à pied. Donc, quand tu vois arriver le pasteur avec son bisque à gaz, lui, il est prospère, là, tu sais. Il est content, il se parque ça là, puis là, c'est comme, waouh, le Seigneur est bon. Il y en avait un pasteur là-bas, il s'est fait tout dévaliser. Il s'est fait faire sa maison complète, ils ont tout vidé, ils ont laissé un vieux sofa dans sa maison. Mais c'est pas découragé, c'est pas découragé. Il a regardé au Seigneur, puis il dit, Seigneur, c'est juste des biens temporaires, ça. C'est juste des choses matérielles. Il aurait pu prendre la femme puis mes enfants. Il aurait pu faire du mal à ma femme puis mes enfants, puis ils n'ont pas touché à ma famille. Puis ils louaient le Seigneur en travers de ça. Donc, les églises locales se sont mises ensemble, puis ils l'ont remeublé. Ils ont donné, puis ils disent, j'ai plus que qu'est-ce que j'avais. Il y avait une petite vision de rien, ils ont donné une 27 pouces. Ils ont donné au centuple, il n'en revenait pas, mais parce que tout le temps, ils confessaient, c'est pas une grosse perte que j'ai subie là. C'est juste des objets, ma famille est saine et sauve, parce que c'est vrai qu'il aurait pu faire du tort à ses enfants, sa femme. Alors, c'est pas des gens qui sont attachés à des biens terrestres. S'ils en ont, c'est correct. S'ils en ont pas, ils vivent pareil, ils sont contents. Ils sont pas axés là-dessus. Alors, c'était vraiment spécial de voir ça. Mais les croisades du soir aussi, de voir la réception des gens, voir comment est-ce que les gens venaient en grand nombre. On a vu des guérisons. Moi, une guérison en particulier qui m'a touchée parce que c'était un petit bébé. Tu sais, on va voir des adultes qui sont touchés, c'est merveilleux aussi, il n'y a pas d'âge, il y a tout, le Seigneur touche, puis c'est toujours beau de voir un corps qui est touché, parce que, comme je mentionnais, quand c'est un salut, tu ne le vois pas, mais quand c'est une guérison, tu vois l'émotion, tu le vois, là, c'est pas fake, c'est vrai, là. Les gens montent sur l'estrade, puis il y a des gens au bas de l'estrade qui vont filtrer les miracles pour s'assurer que, bon, c'est vraiment authentique aussi. Donc, c'est que, parce qu'il y en avait il y a toujours les gens qui veulent avoir accès à la plateforme, pour eux, c'est comme le fun de s'approcher des gens d'un autre pays, avoir accès de venir parler en public. Alors, il y en a des fois qui peuvent... Il y en avait un pauvre petit monsieur en particulier. Mais on est avisé aussi comment dealer avec ces gens-là, parce que tu ne peux pas juste les renvoyer et dire, bien là, va-t'en. Il y a une façon de les envoyer, qu'on leur dit, bien, tu reviendras demain, apporte un membre de ta famille pour témoigner de ta guérison, reviens demain, puis ça va nous faire plaisir. Donc, c'est une façon de les envoyer. Il y en avait un petit monsieur qui, lui, disait qu'il voyait clair, il avait été guéri. Puis là, il faut tester les miracles, voir si c'est authentique. Alors, tu te mets à peu près à deux pieds de lui, puis tu lui montres 5 doigts, puis lui, il en voit 2. Fait que là, tu recules encore un petit peu, puis là, tu y en montres 3, puis il en voit 5. Fait que là, c'est comme tu reviendras demain. Merci d'être venu, on est content que tu sois là. Mais il ne faut pas les blesser, il ne faut pas les brimer. Lui, on s'était clair qu'il n'avait pas été guéri, mais il voulait avoir accès. Aller sur la plateforme, un micro, puis parler à une foule. Je ne me demande pas quelle émotion pour eux. Mais là, à deux pieds, s'ils voient 5 doigts, puis ça monte 2, c'est comme tu reviendras demain. Des choses comme ça. Mais il y a un petit bébé que sa mère est venue avec lui en avant après pour témoigner de sa guérison. Puis moi, je n'ai pas pu le voir parce que j'étais pas près de lui, mais il y avait des membres de l'équipe qui étaient sur l'estrade. Alors, eux autres, ils ont pu voir. Il était crevé au niveau de son nombril, il avait une hernie au niveau de son nombril, puis je dirais que c'est à peu près comme 3-4 pouces de haut, là, son ventre a tellement enflé puis gonflé, puis tout rouge. Cet enfant-là, ça a l'air qu'il pleurait jour et nuit. Il criait tout le temps, sa mère l'avait dans les bras, puis elle le berçait, puis elle ne savait plus quoi faire. Puis quand John il a fait la prière pour la guérison, il était guéri instantané. Alors la maman l'a porté sur l'estrade, puis elle avait des grosses larmes, puis ils ont levé son petit chandail pour voir. Puis il paraît qu'autour de son nombril, là, c'est vraiment comme tu perces avec un ballon, une aiguille dans un ballon. Ça a dégonflé instantané. Alors toute la petite peau autour du nombril, t'as tout comme frippé. Tu vois, c'est une guérison authentique parce que tu voyais, ils ont dit, on voyait où est-ce que l'hernie était, puis n'était plus là. Parce qu'une peau de bébé, c'est pas frippé, là, c'est toute lisse. Puis là, il y avait le petit ventre tout ratatiné autour de son nombril parce que la peau, elle a comme, ça a descendu. Fait que là, puis le petit bébé, il dormait. Je pensais qu'il était mort, ça se peut pas. Un enfant à dormir comme ça dans du bruit, c'est incroyable. Il y a une foule à perte de vue. Il y a les musiciens sur l'estrade, il y a John, il y a tout le monde. Cet enfant-là était dans les bras de sa mère, puis il dormait comme une bûche. Je me dis, soit qu'il était dans l'esprit, soit que le Seigneur, là, comme on dit en anglais, slain in the spirit, il a tombé sur le pouvoir, vraiment, ou bien il était endormi. Si je cherche comment ça faisait Joe, que cet enfant-là peut-être dormait pas. Donc, il s'est réveillé tranquillement après, puis il se frottait les yeux, puis c'est comme il regardait partout, puis j'ai plus de bobo, je crie plus, là, c'est quoi qui se passe, là? Puis la maman le tenait, puis elle pleurait d'émotion, là. Ça, j'ai trouvé ça beau, ça a vraiment venu me chercher parce que les petits enfants sont innocents. Lui, il avait mal, là. Il ne sait pas pourquoi il avait mal, qui a donné ce mal-là. Tu ne peux pas commencer à lui faire confesser 15 versets sur la guérison. Puis, il ne sait pas, là. Lui, il a mal, il pleure. Là, il a plus mal, il est correct. Puis tu voyais la maman, c'est comme wow. Il y avait une autre dame aussi, à peu près une 32 ans. Je ne sais pas si c'est une infection au niveau de ses reins. En tout cas, c'était une infection urinaire qui avait dégénéré par beaucoup, parce que bon, ils n'ont pas des antibiotiques, ils n'ont pas les médicaments qu'on a ici. Donc là, faisait un mois que ça persistait, cette infection-là, était rendue alitée. Elle avait tellement de souffrance, là, son frère était couché. Puis son mari a dit, je vais t'amener à la croisade de puissance ce soir, une réunion de miracles, puis le Seigneur va te guérir. C'est exactement ça qui s'est passé. Durant la prière, elle a senti que, oups, il n'y avait plus de douleur du tout. Donc, elle a fait son chemin sur l'estrade, elle aussi. Les larmes étaient inondées, son visage était inondé de larmes, puis elle disait qu'elle décrivait quelle sorte de mal qu'elle avait depuis un mois, et puis qu'elle ne sentait plus aucune douleur. Fait qu'il y a été beaucoup de guérisons instantanées comme ça. Ça a été vraiment encourageant. Mais je ne peux pas vous dire qu'on a vu tout le monde guéri, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont arrivés en fauteuil roulant, qui sont repartis de la même façon. Ça, ces choses-là, je me dis, il ne faut pas les questionner, ça appartient au Seigneur. C'est la même chose que quand on va partager notre foi avec des gens. Il y en a qui sont très réceptifs, ils vont accepter le Seigneur. D'autres, c'est comme on dirait qu'ils ont les deux doigts dans les oreilles, ils ne veulent rien savoir. Le Seigneur connaît les cœurs, connaît les circonstances. Donc, il y a des gens qui sont repartis. Il y en avait un jeune homme en particulier, ça m'a brisé le cœur parce que durant la croisade, je priais pour lui, puis le Seigneur touche son corps, puis malheureusement, il est reparti dans l'état qu'il était. Mais on ne veut pas mettre l'emphase là. Pareil comme si on amène des gens au Seigneur, on met l'emphase sur ceux qui reçoivent. Mais il y a eu plusieurs personnes, beaucoup, beaucoup de guérisons, de différentes choses. Quand on était aussi au marché, pour revenir à ce marché-là, il y avait une dame là qui avait... elle avait des convulsions, elle avait... comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, l'épilepsie. Elle faisait des crises d'épilepsie, et puis c'était assez sévère, son affaire assez sérieuse. Puis il y a quelqu'un de notre équipe, d'autres filles de l'équipe, qui l'ont conduit au Seigneur, parce que là, bon, on se divise par deux, par trois maximum, puis on essaye de rejoindre le plus grand nombre possible, se disperser dans la foule pour rejoindre le plus grand nombre possible. Alors eux, ils ont eu le temps, ils avaient accès à cette dame-là, puis ils ont été capables de lui faire du ministère, puis la conduire au Seigneur. Mais après, moi, j'ai fait comme mon chemin pour aller la retrouver. Puis là, elle avait besoin de guérison. Puis c'est là que le traducteur commence à me dire qu'elle était épileptique et ainsi de suite. Puis là, t'es sur le spot, tu peux pas arriver puis leur dire, ben là, j'espère que le Seigneur va te guérir. Puis bon, on va prier pour toi. Non! Le Seigneur est ici, il va te guérir tout de suite. Faut être hardi. Si on veut voir des résultats, il faut avoir la foi nous-mêmes, premièrement, savoir à qui on a mis notre confiance, savoir que c'est Jésus qui guérit, c'est pas nous. Alors, j'ai dit, le Seigneur va te guérir de ça, pas de problème. Il ne faut jamais leur montrer qu'il y a un problème, parce que là, eux viennent pour ça, de la délivrance, de l'aide, du secours, de l'espoir. Fait que si on est là, bien là, ben là, j'espère que ça va marcher. En tout cas, on va prier. Puis si ça ne marche pas, bien, peut-être un jour, puis là, à force de lire, bien, des versets de guérison. Puis, ils n'ont pas accès, ils ne savent pas lire. Pour la plupart, ils sont illettrés. Ah, t'es sur le spot, puis le Seigneur va te guérir tout de suite. On est tardi, puis le Seigneur confirme sa parole. Il nous manque d'être tardi, je pense, ici. On manque, là, je l'espère, puis ça devrait fonctionner. En principe, puis là, si tu as appris tes 15 ou 20 versets par cœur, puis t'es dit 10 fois par jour, là, il va peut-être y avoir des résultats. Mais là-bas, t'es sur le spot, c'est tout de suite, c'est comme ça. Alors, je dis, le Seigneur va te guérir, il n'y a pas de problème. Je commence ma mamie sur elle. Elle tombe sur le pouvoir, en plein dans le parc. Là, elle m'écrase d'un bras. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Elle avait sa tête sur mon épaule, puis elle était partie, là, dans un soleil. Elle dormait, elle ne voulait rien savoir. Là, je la soutenais du mieux que je pouvais, puis elle avait sa tête. Elle était vraiment partie, là, vraiment, tu sentais, là, l'esprit était venu sur elle fort. Puis là, je faisais juste la soutenir du mieux que je pouvais. C'est comme, là, tout le monde s'attroupait. C'est comme, qu'est-ce qu'elle a? Il n'avait jamais vu ça. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une sorcière. C'est quoi qu'elle était là? Elle dormait sur mon épaule en plein jour. Moi-même, je la regardais, c'est comme, elle est lourde un peu, mais en tout cas. Quand elle revenait à elle, elle sentait là, qu'il y avait un changement dans son corps. Elle sentait que les tremblements, tout ça, c'était parti. Ah, là, elle était tout à fait contente. Elle était heureuse. Là, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, je lui ai dit, tu vas aller témoigner. Pareil comme l'est dit dans la parole de Dieu. Tu sais, tu vas voir, des fois, on a un pressentiment qu'une personne va être une personne clé dans une région. Il y en a qui vont être guéris, ils vont donner gloire au Seigneur. Mais je ressentais que cette femme-là en particulier, parce que c'est une femme qui a un commerce en plus, je l'ai su juste après, je ne le savais pas quand j'ai prié sur elle, mais ça me donnait des paroles prophétiques pour cette femme-là, que le Seigneur allait se servir beaucoup d'elle dans la ville d'Ouanouko. Parce qu'elle est connue publiquement, les gens savaient qu'elle était épileptique, puis là, il n'y en avait plus. Alors que le Seigneur va se servir d'elle pour en emmener plusieurs. Puis là, elle nous a demandé si on avait, je lui ai demandé si elle avait une Bible, elle n'avait pas. Alors, on lui a dit, le soir, reviens à la croisade, puis on va te donner une Bible. Alors, à travers une foule immense, elle a fait son chemin, puis elle est venue à bout de venir nous trouver au bord de l'estrade, puis avec un beau sourire, je la regarde, c'est comme, ça, ça fait pas longtemps, je l'ai vue, cette femme-là. Là, je replace. Oui, c'est toi, ma tête, qui est comme, OK, oui, je replace, c'est correct. Là, j'ai le gros sourire, en plein dans ses bras. Tu voyais, la joie du Seigneur t'a délivré. On lui a donné une Bible. Elle voulait se faire poser avec la Bible tout emballée dans un beau papier, là, hein, avec un chou dessus. Puis ceux qui ont emballé ça, ils ont vraiment mis du beau papier doré. Elle voulait pas l'ouvrir tant qu'elle n'avait pas été posée avec sa Bible. Après ça, elle déchirait ça, puis c'est comme ça. Waouh, là, j'ai accès à la parole de Dieu. C'est à moi, cette Bible-là. Je vais être capable de lire pour moi-même. Assoiffée, là. Elle continue à prier pour ces gens-là, pour qu'est-ce que le Seigneur a commencé en eux. Nous, on est allés déposer des semences. Les pasteurs sont là maintenant pour arroser, puis travailler. Ces gens-là qui sont relâchés parmi le leur, ça fait les meilleurs témoins. C'est les meilleurs témoins parce qu'ils sont connus du peuple. Ils sont connus, les gens le savent. Ça, cette personne-là avait des problèmes physiques, cette personne-là t'a dérangé émotionnellement. On la regarde, puis il est transformé. Alors, ça fait les meilleurs porte-parole, les meilleurs témoins qui ne peuvent pas exister, c'est les gens du peuple. Alors, de prier pour eux. J'ai vu aussi une autre chose extraordinaire. Il y avait un jeune homme, un beau jeune homme, je dirais, il avait à peu près 19 ans. Il était muet de naissance. Il n'avait jamais, jamais dit un mot. Puis là, il a commencé à parler. Il y a quelqu'un de l'équipe qui a mis ses mains sur lui. Il a commencé à dire des mots. Le premier mot qu'il dit, c'est Jésus. Puis là, il avait les yeux grands, grands, là, puis les larmes, puis sa bouche, elle tremblait. Là, il était assez ému. Puis là, plus on lui disait des mots, plus il les disait clairs. C'est certain qu'au début, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais marché, à moins d'une vraie manifestation de l'esprit qui va sauter partout, comme on voit l'homme à la belle porte, s'élever, puis il avait de la force dans ses chevilles. Mais des fois, c'est graduel, une guérison. Alors, ce jeune homme-là, qui n'avait jamais parlé, c'est sûr qu'il ne pouvait pas articuler clairement comme nous, mais à mesure qu'on lui disait des mots, il répétait les mots, puis plus tu voyais son langage devenir fluent, plus on était capable de saisir puis comprendre ce qu'il disait, au point qu'il était capable même pour lui-même de demander de la prière, parce qu'il s'est mis à prier, à pleurer, puis avec le cœur brisé. Il disait qu'il avait une grosse peine parce que sa mère était décédée. Il n'y avait plus sa mère. Donc, il voulait qu'on prie pour que le Seigneur guérisse son cœur brisé. On a prié pour lui. Mais c'était assez beau de le voir, là. Il était là, puis il disait des mots, là, puis il nous regardait. C'est comme, puis il s'entendait le dire, les mots. C'est comme, c'était merveilleux de témoigner ça, de voir un muet comme ça parler, là. C'était spécial. Plein de choses, c'est certain que j'en parle des choses. On peut pas, tu sais, j'essaie de toucher les choses qui m'ont le plus marqué, là. Oui, il y avait un monsieur, on les appelle les nationals là-bas, ce sont les gens du pays, si on veut, les personnes, les Péruviens. Bon, il y avait un monsieur que lui, il faisait partie de l'équipe, il faisait de la traduction et ainsi de suite. Et puis, il a demandé qu'on prie pour lui, qu'on commence à prier pour lui, parce qu'il dit que sa mère était très malade. Sa mère était en Californie, puis elle était très malade, puis il est venu comme les yeux vraiment tout vitrés en eau, là. Il était très ému pour sa mère. On a commencé à prier pour sa mère, puis lui a tombé sur le pouvoir aussi, direct là dans le champ. Je m'ai mis à genoux, puis j'ai pris sa main, puis là, j'avais comme des paroles prophétiques. Ces choses-là, on ne peut pas les provoquer. Tu ne peux pas penser à ça d'avance, c'est comme l'Esprit le veut. Puis là, je tenais sa main, puis en tenant sa main, je lui ai dit que sa mère commençait maintenant à guérir, que le Seigneur avait commencé à opérer une guérison dans sa mère. Puis quand elle arrivait à la maison, qu'un transfert d'onction, de guérison, qu'on mettait sur lui, qu'elle allait se transférer sur sa mère, qu'elle allait poser les mains sur sa mère, puis qu'elle allait guérir complètement. Puis par le temps qu'il était à terre, il y a une vision de sa mère. Il la voyait dans la cuisine, puis elle commençait à être beaucoup mieux. Il s'est relevé, puis il dit, ma mère est après guérir, je l'ai vue. Il prend le téléphone, puis il l'appelle. Il voulait quand même vérifier, là, c'est mon imagination ou quoi. Il l'a appelé le lendemain matin. Puis il a parlé à sa mère, puis elle a dit, je comprends pas, j'étais dans la cuisine hier. Elle dit, tout d'un coup, comme ça, elle dit, je m'ai commencé à me sentir tellement mieux. Elle dit, comme si la douleur me lâchait, le mal me lâchait. Puis c'était là, il l'avait vu dans la cuisine la veille. Il avait une vision. Donc le Seigneur est puissant, il touche les cœurs, il touche les corps. Ça a été merveilleux. Fait que ça a été que de la bénédiction. Yeah. Oui, c'est ça. Quand on avait fait, parce que là, la madame qui avait tombé sous le pouvoir puis qui était guérie de l'épilepsie, là, on trouvait qu'on avait fait du ministère quand même un bon bout de temps dans la place publique, le marché. Alors, on voulait laisser ces gens-là aussi leur journée de travail et faire leurs choses, parce qu'ils quand même sont là pour vendre des produits puis se faire de l'argent. Alors, on a descendu en bas d'une côte, on a traversé un petit pont pour aller dans un autre parc. On était pas aussitôt rendu là, on sortait d'abord. La foule du marché qui nous suivait. Ils avaient traversé, ils voulaient pas qu'on les quitte, parce qu'ils voyaient des guérisons. Ils sentaient que la main de Dieu était à l'œuvre, qu'il se produisait des choses. On se retourne, c'est comme, oh, ils sont là, c'est spécial. Alors, quand on lit la Bible, après avoir vécu des choses comme ça, c'est comme, on la lit différemment. Quand tu lis, les foules suivaient Jésus. Il devait se sentir comme ça, lui aussi. Il allait dans un endroit un petit peu plus isolé, des fois, pour faire du ministère, d'un coup, il se revient de bord, puis, ils sont tous là comme des mouches, ouh, ils reviennent. Fait qu'on a continué à faire ce qu'on faisait là dans le parc, on est dit. Parce qu'au début, ce que j'ai trouvé au début de la semaine, c'est qu'on allait un petit peu vite. On allait d'un site à l'autre, puis celui qui dirigeait l'équipe, en particulier, lui, il était plus pour des chiffres. Il était entraîné comme ça, c'est un homme d'armée. Puis lui, il allait beaucoup pour les chiffres. C'est important, le nombre. Puis là, à un moment donné, on s'est mis ensemble, on a comme jasé, on a fait ensemble toute l'équipe, puis on a dit, écoutez, c'est peut-être mieux d'en avoir moins en nombre, puis de s'arrêter, puis être certain que quand on quitte un endroit, c'est parce qu'on a la paix du Seigneur, qu'on a fait ce qu'on devait faire là. Parce que les trois premiers jours, je ne peux pas dire qu'on avait des résultats formidables, notre équipe. Même que notre équipe, à nous, c'est celle qui était la moins fonctionnelle. On était sept dans l'équipe. Ça me frustrait. Parce qu'on sautait d'un site à l'autre, d'un parc à l'autre, un peu comme un kangourou, on a fini le site, puis on s'en va à l'autre place. Mais on sentait qu'on n'avait pas touché les gens. Il n'y avait pas eu de communion, puis il n'y avait pas eu, le Seigneur n'avait pas eu le temps de faire ce qu'il voulait faire dans la foule. Puis on se dépêchait, puis on comptait les mains qui étaient dans les airs. C'est bon, ça. Mais il y a un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Là, je trouvais qu'il y avait trop d'accent de mise sur le nombre. Alors, on s'est parlé, puis là, bon, on a fait les choses différemment. On a donné un petit peu notre idée, qu'est-ce qu'on ressentait. Puis, on s'est mis d'accord que là, on va prendre le temps. Alors là, on s'est vraiment arrêté au marché, puis on a dit, si on passe l'avant-midi ici, puis on ne fait pas d'autres sites, parce que le Seigneur a quelque chose à faire ici, présentement, puis il y a une œuvre qu'il veut faire là. Alors, on s'est vraiment attardé, puis c'est là qu'on a commencé à voir vraiment des miracles, voir vraiment des guérisons. C'était peut-être moins en nombre, mais c'était de la qualité. Parce qu'on avait le contact personnel avec les gens, c'était privilégié, ça. Alors, j'ai trouvé ça vraiment, voilà. Puis, il y avait un monsieur, là, qui était là au parc. On a prié pour lui, il y avait une tumeur en arrière de sa, comme à peu près ici, là, il y avait une grosse bosse. On a prié pour lui, on n'a pas vu des résultats immédiats. Mais cet homme-là, il était tellement dans la foi, il dit, je sais que le Seigneur me guérit. Il sentait dans son cœur, même si physiquement il ne sentait pas qu'il avait été touché, il savait pareil par la foi qu'il avait été guéri. Il a passé à la course et il nous faisait comme ça, un momento, un momento. Il est allé chercher sa fille à la maison qui était malade. Vous voyez comment les gens sont réceptifs. Lui-même, il n'avait pas la manifestation totale de sa guérison, puis il part à court chercher sa fille qui est malade. Il la ramène par la main, puis là, il voulait qu'on se mette autour de sa fille, puis qu'on prie pour elle. Mais parce qu'on a fait ça, le Seigneur a touché, puis a guéri. Parce qu'il y avait la foi, il a parti sans sa manifestation, puis il est allé chercher sa fille. Quand on est revenu, puis on a touché, là, le tumeur rapetissait. Jusqu'à la fin, là, c'était juste une petite bosse de rien, puis on a dit, ça va disparaître. D'ici la fin de la journée, il n'y en aura plus de trace. Mais il a agi sur sa foi, il restait avec sa bosse, puis il va chercher sa fille, puis il était là, one moment, où il voulait qu'on attende, qu'on parte surtout pas de là, puis il a emmené sa fille qui était malade, puis là, c'est comme prier pour elle aussi, là. Donc, les gens sont réceptifs, ils ont faim de l'Évangile, un point incroyable. Puis Dieu les rencontre là où ils sont. Il regardera pas le Seigneur, mais t'as-tu telle connaissance, est-ce que tu sais? Nous aussi, on a accès à la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas après à minimiser ça puis dire qu'on ne devrait pas. On a accès à la parole de Dieu puis on l'a. Donc, le Seigneur t'attend qu'on la mette en pratique, qu'on la lise, qu'on la mette dans notre cœur. Mais ces gens-là qui ne l'ont pas, le Seigneur les rencontre là où ils sont. Ils rencontrent dans leurs besoins. Puis c'est pour ça qu'il y a des bonnes églises locales de former, puis des pasteurs qui sont formés, des séminaires qui se font avec eux, vraiment avec eux. Puis il y a des pasteurs adjoints, puis ça marche comme le principe d'une vraie église locale comme on connaît, avec des placiers. Les gens avec une dévotion là sont vendus là, à 100% pour le Seigneur, puis pour la cause de Dieu. Alors ça a été vraiment un voyage bénissant. On a eu quelques petits embêtements, parce que c'est certain, bon, l'ennemi est là, puis... Il n'est pas content des choses qui se font. Mais en général, ça a été bien. On a eu, par exemple, un petit peu de mal, le mal de mer, qu'on va appeler. Là. On avait 5 de nous parce qu'on a dû, quand on est arrivé à Lima, qui est la capitale du Pérou, on a dû prendre un autobus. C'était un voyage de nuit. On a dû prendre l'autobus pour aller à Huánuco, qui est à peu près 100 000 de distance. Ça prend 8 heures pour faire 100 000. Parce que c'est dans les rochers, c'est dans les montagnes, puis c'est des chemins tellement, tellement tordus, là. T'as l'impression que c'est comme d'être dans un manège, puis de faire brasser pendant 8 heures. Puis là, j'étais à jeun. Puis là, ils nous mettent, ça suggère aussi, on voit bien comment que le psychologique, ils mettent des sacs en avant de chaque benne à l'autobus, en cas qu'on a mal au cœur. Puis là, tu regardes le sac, puis là, oh, j'aurais pas besoin, là, je vais être correct, il n'y a pas de problème. Puis là, tu regardes le sac, puis là, c'est comme, ugh! Là, le ventre tourne. Là, on a arrêté dans un petit village. Tu peux pas te lever debout dans l'autobus, c'est impensable. Là, tu t'accroches partout, puis là, t'es littéralement ballotté comme ça d'un bord à l'autre pendant 8 heures. Parce que c'est tellement, tellement tortueux, les chemins. Puis plus tu montes en altitude aussi, les gens qui sont pas habitués d'aller en altitude. Puis j'ai appris après, ça, c'est John de dire ça. Mais je suis contente de ne pas l'avoir su parce que peut-être je ne serais pas allée. C'est une chose niaiserie comme ça, un détail pour le physique, m'a empêché d'aller chercher toutes ces bénédictions-là. Mais c'est quand tu es dans l'autobus que là, il nous dit, « Ah oui, c'est la place la plus haute au monde où qu'on va aller. » Comme, ben c'est bien temps de nous le dire, là, tu sais. Là, on est assis dans l'autobus, tu peux plus sortir, là. Fait que là, tu fais partie, puis tu n'as pas le choix. Là, on montait, c'est comme à l'infini. On n'arrêtait pas de monter, puis c'était tellement tortueux que là, c'est sûr que le mal de cœur m'a pris. Donc, j'étais à jeun, donc il y avait de l'acide de l'estomac, on ne se sentait pas bien, étourdi, la tête. Là, on arrêtait dans un petit village parce qu'il fallait qu'ils remettent de l'essence dans l'autobus. L'odeur qu'il y avait là, c'était comme ça se décrit pas. Une odeur de choses qui sont en train de se décomposer, mêlée avec plein d'autres auteurs, de gens qui sont en train de cuisiner, de petits restaurants à proximité, de plein de choses, d'animaux, d'excréments, de tout. Alors, ça, et puis en plus, tu sens l'essence de l'autobus parce que, bon, c'est comme l'exhaust, c'était pas nécessairement en ordre. Donc, continuellement, on sentait dans l'autobus le gaz, l'huile brûlée, là. Tu sais, tu vas suivre un auto des fois. Donc, ça dégageait tout ça ensemble. Fait que là, j'arrive, puis ils me demandent, ben voulez-vous manger quelque chose? Moi, j'étais juste assise sur le bord de ma chaise, la tête me tournait, comme si j'étais encore dans le manège, j'étais comme, je suis pas capable d'avaler rien. Mais là, John me dit, ça serait bon, pareil, tu mettrais un peu de quoi dans l'estomac. Non, eux autres, ils ont mangé, là, je sais pas comment ce qu'ils ont fait, la grâce était là pour eux autres. Moi, je n'avais pas ce poids-là. Eux autres sont plus habitués de voyager, d'aller partout, fait que là, eux autres, ils mangeaient, ça dérangeait pas. J'ai pris une toast, puis j'ai pris 2 bouchées, puis il avait mis comme un beurre, du beurre dessus qui va goûter comme le maïs, le popcorn éclaté, salé beaucoup, puis, beaucoup avec du beurre. juste trois bouchées de la tasse, là, les yeux me mettent plein d'eau, puis leur cœur, je dis, oh non. Fait que là, ils vont me chercher une tisane du pays. Ça, ça guérit n'importe quoi, il paraît, hein. Puis là, on était gelés parce qu'on était dans les montagnes, puis tu vois la neige sur toutes les capes de montagne. Donc, j'avais assez froid par être à jeun, par avoir dormi, tout ça, qu'on est frileux. On grelottait littéralement. On était cinq qui ont été malades comme ça dans l'autobus. Donc, ils m'apportent la tisane du pays qui guérit tout, qui enlève le mot de cœur, qui enlève tout ça. Je l'ai bu parce que c'était chaud, parce que j'avais besoin de me réchauffer. Ça faisait pas une heure qu'on était dans l'autobus que là, la tisane, elle tournait à peu près, petit morceau de toast. Encore malade, j'ai dit, oh, Seigneur, aide-nous. Mais je repense à tout ça, puis je me dis, c'est un bien petit prix à payer pour voir toutes les âmes qui ont été touchées, tous les corps qui ont été guéris, que c'est vraiment, c'est juste des petites choses comme ça. Alors, pour revenir, je n'étais pas tellement comme emballée de repenser que là, on Alimor prend l'autobus, puis on refait le trajet des montagnes, puis on retourne. Alors, j'ai dit, là, Seigneur, j'aimerais ça que tu m'aides. Je ne savais pas pour venir qu'est-ce que c'était, mais là, je sais qu'est-ce que c'est pour retourner. J'aimerais ça que tu m'aides, puis tu m'assistes, puis que je ne sois pas malade. C'est vrai qu'il y avait une fille qui avait des gravoles, donc j'ai pris une...